Il y a Véronique qui me fait dire si les gens peuvent éteindre leur portable, tiens, je vais le faire du mien. Enfin, le mettre sur avion, parce que il y a des gens qui cherchent à éviter le trop grand nombre d'ondes. Donc elle m'a demandé de faire ça. Je regarde juste l'écran techniquement si c'est bon. Bon, il y a aussi des gens qui reviennent d'une manifestation au corridor. Ils m'ont appelé il y a 5 minutes.
Ils sont là.
Non, mais il y en a, parce que ils m'ont appelé il y a 5 minutes en me disant qu'ils étaient encore à Saint-Étienne. C'est géocentrisme et humanocentrisme. C'est un thème qui peut être un peu bizarre parce que ça ne va pas trop avec le rapport avec la question animale, enfin si, par la question d'humanocentrisme. C'est un thème un peu à cheval sur les questions physiques et les questions éthiques, enfin c'est même plus qu'à cheval, qui essaye de faire une comparaison donc, entre à la fois historique et structurel entre l'éthique et la physique, et entre le passage qui a eu lieu il y a 400 ans bientôt, ça fait pas tant que ça en fait, entre une ancienne physique qui était une physique d'Aristote et qui était une physique qui, disons, avait, je dirais pas zéro pointé sur toute la ligne, mais qui n'était pas, qui n'expliquait rien, et qui était basée sur des concepts dont on sait qu'ils ne valent pas grand-chose. Donc, qui dominait depuis Aristote. Aristote, c'est plusieurs siècles avant Jésus-Christ, et c'est la philosophie grecque qui a été reprise par le christianisme. Alors, moi, je ne suis pas du tout spécialiste d'Aristote et de la physique d'avant, mais il y a un certain nombre de choses, je pense, qui sont presque évidentes, que tout le monde peut connaître sur ce passage par Galilée à une nouvelle physique en 1632, grosso modo. Et de l'autre côté, le passage, la fin de l'humanocentrisme, donc cette nouvelle physique qui a été marquée en particulier par le fait que la Terre n'était plus au centre de l'univers. Mais ce n'est pas simplement une question de lieu, c'est une question beaucoup plus profonde que ça. Et une nouvelle éthique à partir, disons, de Peter Singer, de l'Animal Liberation en 1975, donc qui a été ne plus avoir l'être humain, l'humanité comme centre de tout l'univers éthique, de tout l'univers moral, on pourrait dire spirituel, pour utiliser les termes qu'on utilise habituellement, mais un décentrement où tout comme depuis Galilée c'est l'ensemble de l'univers qui obéit grosso modo aux mêmes lois physiques. Depuis Singer, on peut se dire que nous commençons à explorer l'ensemble du monde sentient avec la même perspective éthique que pour l'humanité. Donc ces idées, pour moi, c'est des trucs que je défends presque systématiquement depuis longtemps. Systématiquement, mais d'une façon très peu formelle, quand il y a des polémiques par rapport à l'utilitarisme. Moi, je suis utilitariste et je pense que la nouvelle éthique, elle est utilitariste, ou en tout cas, elle est à base conséquentialiste, par opposition aux anciennes éthiques déontologistes, que je compare avec les éthiques, la physique d'Aristote. Et d'ailleurs, ces éthiques conséquentialistes sont aussi largement inspirées d'Aristote et de la philosophie. Étienne qui a fait suite. Donc, moi, je suis amené à défendre en particulier ce que j'appelle l'idée d'une éthique à deux niveaux. On verra un petit peu plus ce que c'est. Et en comparaison avec le fait que la physique depuis Galilée, c'est une physique à deux niveaux. Ce n'est pas souvent formulé comme ça, mais de fait, je pense que c'est un des points qui le démarque par rapport à la physique précédente. C'est que la physique de Galilée, il y a un niveau théorique et il y a un niveau concret d'application qui est, je dirais, en dessous. Enfin, en dessous, ça ne veut pas dire que c'est nul, mais ça veut dire que c'est quelque chose qui largement en dérive et qu'il ne faut pas confondre ces deux niveaux et que pour moi, c'est la même chose en éthique. L'éthique devrait avoir la même structure. Et donc, je disais que je suis amené à défendre un certain point de vue par rapport à ça. Et récemment, je l'ai développé un petit peu dans une interview à une revue végane québécoise qui s'appelle Versus. Et je l'ai développé un tout petit peu. Je me suis dit, ben, les gens ne vont rien comprendre de ce que j'ai dit. Alors là, aujourd'hui, je vais essayer de vous faire comprendre un petit peu plus ce que je mets dans cette notion qui, plus j'y réfléchis, c'est quelque chose d'assez important. C'est peut-être un peu complexe ce que je vais dire, mais en même temps, à un certain niveau, c'est assez simple et élémentaire. Je vais d'abord faire un peu deux pages un peu de précaution par rapport à la question des comparaisons entre physique et éthique. Il y a beaucoup de gens qui voient la physique et l'éthique comme étant deux mondes totalement séparés, en particulier en philosophie, en considérant qu'il y a une distinction très nette à faire entre être et devoir être. Alors, c'est quelque chose qui est formulé comme ça, en particulier depuis David Hume, en 1740, souvent formulé sous la forme d'expression anglaise « is ought », is voulant dire ce qui est, et ought ce qui doit être. C'est la distinction entre le descriptif et le prescriptif. Avec l'idée que je peux dire ceci est comme ça, cela est comme ça, constater des faits, mais que je ne peux pas passer directement de la constatation d'un certain nombre de faits, du style ce radiateur est blanc, ou dans la nature les animaux se mangent entre eux, ou on mange de la viande depuis toujours, ou quelque chose comme ça, pour passer directement à des obligations morales, c'est-à-dire à ce qui est du domaine du prescriptif, de dire donc on doit manger de la viande, donc la nature, la prédation, c'est bien puisque ça existe depuis toujours. Ou par exemple, les gens qui croient en Dieu disent souvent Dieu a dit ceci, donc on doit le faire. Alors que on peut supposer comme fait matériel descriptif, Dieu a dit ceci, comme on peut dire Jacques a dit, mais c'est pas parce que Jacques a dit qu'on doit le faire. Donc il y a un passage entre ce qui est et ce qu'on doit faire qui est, disons, qui est interdit par la logique quelque part. Alors ça a été exprimé par David Hume en 1740, donc David Hume, le philosophe écossais, dans un passage assez célèbre, où il dit « Dans tous les systèmes de moralité que j'ai rencontrés jusqu'ici, j'ai toujours remarqué que l'auteur procède quelque temps de la manière ordinaire de raisonner, qui établit l'existence d'un dieu ou de faits d'observation concernant les affaires humaines, c'est-à-dire des choses descriptives, purement neutres, et quand soudain je suis étonné de trouver qu'au lieu de rencontrer les populations habituelles et n'est pas, je ne trouve aucune proposition qui ne soit connectée avec des doit ou ne doit pas, c'est-à-dire le passage entre le descriptif et le prescriptif, sans que la personne n'explique pourquoi. Ce changement est imperceptible, mais a néanmoins de grandes conséquences, car comme ce doit ou ne doit pas exprime quelques nouvelles relations ou affirmations, il est nécessaire que celles-ci soient observées, expliquées, et qu'en même temps une raison soit donnée pour ce qui semble tout à fait inconcevable, que cette relation puisse être une déduction d'autres relations qui en sont entièrement différentes. Donc sur l'interdiction de mélanger le constat, c'est-à-dire de ce qui est de l'ordre du matériel, du descriptif, et l'éthique. Alors, ceci est souvent interprété comme voulant dire que l'éthique est de l'ordre du subjectif. C'est simplement des conventions, ça correspond à nos préférences personnelles, mais qu'il n'y n'y a aucune vérité dans le fait de dire il est mal de faire ceci, il est mal de manger des animaux, ou on doit cesser de réduire telle ou telle population en esclavage, etc. Il y a des gens qui pensent, un courant assez fort en philosophie, qui consiste à dire que l'éthique, c'est purement l'expression de préférence personnelle, mais qu'il n'y a aucune valeur de vérité. On ne peut pas dire il est vrai objectivement que réduire les gens en esclavage, c'est mal, mais que c'est simplement l'expression du fait qu'on est tous d'accord dessus, on a une préférence collective pour dire ça. Bon, d'abord, ce n'est pas là exactement la même chose que l'interdiction de passer directement de être à devoir être. Et d'autre part, ce n'est pas parce que être et devoir être sont des choses différentes qu'il faille nécessairement considérer qu'il y en a un qui correspond à la vérité et l'autre à des vérités ou des erreurs. Comme si je dis la lutte est faite de tofu, c'est une erreur, mais c'est quand même une proposition descriptive. Et que l'autre est purement ce sont des choses qui n'existent pas dans la réalité. Moi, je ne vais pas développer ça, mais je ne suis pas subjectiviste en éthique. Je pense qu'il y a, disons, un certain monde, on pourrait dire, qui est le monde physique, qui est le monde des atomes qui sont comme ci, comme ça. Je pense qu'il y a aussi d'autres choses qui ont des valeurs de vérité. Un exemple simple, c'est les propositions mathématiques. 7 est un nombre premier, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous n'arriverez jamais à mettre dans un rectangle de plusieurs lignes et plusieurs colonnes 7 objets. C'est une impossibilité, donc les propositions mathématiques du style 7 est un nombre premier, ou 127 est un nombre premier, j'espère que ça l'est, je ne sais pas. Bon, c'est une proposition vraie ou fausse, mais qui a une valeur de vérité qui est indépendante de mes préférences, de mes choix ou quoi que ce soit. De la même manière, je pense que les propositions éthiques ont une valeur de vérité, donc je suis réaliste du point de vue éthique. Et ça fait longtemps que je suis assez fasciné par les parallèles qu'on peut faire entre le descriptif et le prescriptif, et qu'il y a des relations, je pense, très fortes entre les deux. Et en réalité, je pense que quelque part, c'est le même monde. Entre les deux, il y a quelque chose qui participe à la fois du descriptif et du prescriptif, je pense qu'il y a la sentience. C'est-à-dire quand quelqu'un a mal, quand un être sentient a mal, c'est à la fois un fait physique, une réalité physique du monde physique, et c'est aussi quelque chose qui est constitutif d'une obligation morale. Bon. Ça, c'est ma vision des choses. Ce n'est pas le sujet précis de cette conférence, mais c'est simplement pour dire que malgré cette interdiction de passer directement d'un domaine à l'autre, en disant simplement les choses sont comme ça, donc on doit faire comme ça, ou autrement, il n'est pas interdit de considérer que ce sont deux mondes, deux univers en tout cas de notre réflexion, qui peuvent avoir une structure commune, et aussi avoir beaucoup de liens et de choses en commun, y compris au niveau de l'évolution historique. Alors le parallèle que je veux faire, donc c'est parallèle entre deux domaines. Alors, je ne sais pas, c'est un peu coupé, mais il n'y a pas grand-chose. Voilà, parallèle entre deux domaines. Un parallèle qui est à la fois historique, donc entre la fin du géocentrisme, ce que je vous disais, c'est-à-dire jusqu'au XVIIe siècle, on pensait, c'était la pensée dominante, que la Terre était au centre de l'univers. Ce qui était très conforme, enfin très, ça allait très bien avec l'esprit de la religion chrétienne, parce que ça mettait vraiment la création divine qui était censée être un événement cosmique, comme étant la chose, voilà, c'est décrit dans la Bible, c'est sur la terre, elle a créé la terre, et puis mis des luminaires dans le ciel, etc. C'est-à-dire, tout est centré sur la terre, et ce qui est sur la Terre, c'est centré sur l'être humain. Donc la fin du géocentrisme, on s'est rendu compte qu'en fait c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et qui tourne sur elle-même, ce qui explique le jour et la nuit. Avant on pensait que c'était le Soleil qui tournait autour de la Terre pour faire le jour et la nuit. Et d'autre part, la fin de l'humanocentrisme, donc 20e siècle, on ne peut pas dire que ça soit fini aujourd'hui, mais grosso modo ça a démarré au 20e siècle avec en particulier Peter Singer, et la comparaison elle porte non seulement sur l'historique, sur l'histoire, mais sur
la structure de la physique d'une part et de l'éthique d'autre part. Et sur deux points que j'ai notés ici, c'est qu'avant, on avait une vision héritée d'Aristote et promue par le christianisme de la physique, d'une part, et de l'éthique, d'autre part, de tout ce qui est, disons, du domaine moral, du domaine spirituel. Ces deux visions, donc la vision aristotélicienne et déontologique, au niveau éthique, ça persiste encore énormément aujourd'hui, la déontologie, l'idée de déontologie. Nous en sommes tous imbibés. Et dans ces visions, il y a une proximité, alors dans la physique, entre la théorie et l'expérience. Je parle de la pierre qui roule, c'est le fait que dans notre expérience quotidienne, tout mouvement non entretenu cesse sur Terre. Donc tout mouvement, si je jette une pierre, elle va s'arrêter. Si je conduis une voiture qui n'a plus d'essence, elle va s'arrêter. D'accord ? Donc le fait que les mouvements en particulier sont des choses qui s'épuisent rapidement et que l'idée d'Aristote, c'était que l'état naturel d'un corps, c'était l'immobilité. Donc ça, c'est le... Disons que la description aristotélicienne, c'est quelque chose qui colle très fortement à l'expérience. Alors qu'on verra, avec Galilée, il a des propositions qui paraissent très contraires à l'expérience. Et au niveau éthique, les règles éthiques déontologistes sont assez proches de nos intuitions. D'ailleurs, ce qu'on reproche souvent à l'utilitarisme, donc, qui est grosso modo le contraire des visions déontologiques, c'est d'être très contraire parfois à l'intuition. On verra quelques exemples. Et avec ça, à partir donc de la fin du géocentrisme d'une part, donc dans la nouvelle physique et dans la nouvelle éthique d'autre part, on a non seulement des choses qui ne sont pas comme la proximité, comme ce que je viens de dire, sur la proximité entre théorie et expérience, entre éthique et intuition, mais on a des théories qui sont à deux niveaux, peut-être un peu plus que deux niveaux dans la réalité, mais grosso modo, il y a une distinction entre deux niveaux. Au niveau dans la physique, on a un niveau de physique théorique d'un côté, et de l'autre côté, on a la physique de l'ingénieur. Au niveau de la physique théorique, c'est une physique qui vaut partout dans le monde, dans le monde, sur Terre, dans les étoiles, partout, avec des règles qui sont assez abstraites, du genre la relativité du mouvement, c'est-à-dire que l'immobilité n'a pas un sens intrinsèque, réel. Un corps, on ne peut pas dire qu'il bouge, qu'il se déplace ou pas en soi, tout simplement c'est qu'on se déplace toujours par rapport à autre chose. Mais ce qui a pour conséquence, par exemple, le principe d'inertie, qui est qu'une pierre, si rien ne l'arrête, elle continuera à bouger éternellement. Et le niveau de l'ingénieur, de la physique de l'ingénieur, qui est beaucoup plus concrète et qui dit non, pour faire avancer une voiture, il faut bien de l'essence. Pour construire un pont, eh bien, il y a un haut et un bas, on ne peut pas l'oublier, alors qu'au niveau de la physique théorique, il n'y a pas de haut ni de bas. L'espace est isotrope. Donc la physique de l'ingénieur, c'est une physique, je dirais, localisée, prendre un terme informatique habituel, c'est-à-dire adaptée au lieu. C'est les lois générales de la physique, mais adaptées aux particularités locales. Et de même, au niveau de l'éthique, ce que je promeux, c'est l'idée de deux niveaux d'éthique. Alors, je promeux, mais c'est quelque chose qui a été formulé de façon assez claire par un philosophe britannique, je crois, R.M. Hare, en 1981, je crois, enfin, ça faisait longtemps qu'il en parlait, mais l'idée qu'il faut, en éthique, il faut de la même façon un niveau théorique avec des lois générales qui peuvent être contre-intuitives, et que ces lois générales, ce sont des lois utilitaristes qui sont en nombre relativement faible, et que par contre, quand on adapte ces lois, par exemple, à une société humaine précise, il faut tenir compte de la réalité humaine, de la réalité de cette société, de la réalité de la pensée humaine, enfin du ressenti, des émotions particulières de cet animal particulier qui est l'être humain. Si on l'adapte de la même façon que la physique sur la Lune, ben, l'adaptation elle est un peu différente qu'on a à faire. Si on adapte l'éthique au cas des mouches, et ben, l'adaptation sera différente, mais que les lois générales sont les mêmes. Alors, voilà, donc là, c'est un peu l'introduction que j'ai fait. Maintenant, je veux revenir, parce que je me rends compte que quand je parle de tout ça, bon, tout le monde ne sait pas forcément très bien cette histoire de Galilée. On sait qu'il y a eu à un certain moment un procès de Galilée, tout ça, qu'il a été condamné, parce qu'il disait que la Terre n'était pas au centre de l'univers. Mais je veux expliciter un petit peu comment ça s'est passé et ce qu'il a dit. Donc, sur la physique d'Aristote, et quelques caractéristiques sur la physique, je reviendrai, qui sont assez communes à l'éthique d'Aristote. Donc, la physique d'Aristote divisait l'univers entre le monde terrestre et le monde céleste. Disons, les mondes supralunaires, ça commençait à partir de la Lune. Les objets célestes étaient censés obéir à des règles totalement différentes des règles terrestres. Les objets célestes, par exemple, il y avait un dogme qui disait la Lune, enfin tous les corps célestes sont des sphères parfaites. Les sphères parfaites, ça veut dire sphères totalement lisses. On n'admettait pas la moindre aspérité. Elle devait être aussi parfaitement réfléchissante, parce que comme un miroir parfaitement lisse, c'est parfaitement réfléchissant. Donc, il y avait une notion de perfection. Ces sphères parfaites devaient tourner en des cercles parfaits, parce que le cercle, c'est la figure géométrique parfaite, et éternellement. Et les mouvements dans le monde céleste étaient des mouvements éternels, ce qui était assez conforme à l'idée que le ciel, quand même, c'est le monde où il y a Dieu qui est éternel. Mais donc, c'était un monde éternel et parfait, qui n'avait jamais de naissance, de corruption, comme on disait, de mort. Alors que, par opposition, le monde terrestre, c'est un monde où il y a des naissances, corruption, mort, imperfection, désordre, mais aussi de la liberté. Et que sur le monde terrestre, par exemple, comme je vous disais, le lieu naturel des objets, c'est de tomber en direction du centre de la Terre, que ces objets n'ont pas de mouvement de déplacement horizontal, par exemple, ou quand ils en ont un, ils le perdent très rapidement, parce que c'est contraire à leur nature, disons. Et par contre, les corps célestes, leur nature, c'est quelque chose de parfait, les mouvements sont éternels et ne terminent jamais. Alors, ce que j'ai noté en bas, omniprésence du raisonnement ontologique. Alors, ontologique, ça veut dire un discours sur la nature des choses. Par exemple, un exemple de discours ontologique, c'est la nature des organes sexuels, c'est de se reproduire. Et ce discours ontologique, tel qu'il est, en tout cas dans Aristote et dans le christianisme, c'est une ontologie animiste, axiologique. Axiologique, ça veut dire qu'il y a une valeur, c'est-à-dire qu'immédiatement, à partir de cette idée de ce que sont les choses, on en déduit des valeurs, c'est-à-dire des propositions qui ressemblent à des volontés, qui ressemblent à quelque chose qui découle de la sentience, qui ressemble à des valeurs, c'est-à-dire, par exemple, on dira les organes sexuels, leur nature est de servir à la reproduction, donc les utiliser pour simplement s'amuser est une chose contraire à leur nature et donc est une chose mauvaise. Donc ça, c'était le genre de raisonnement qui était complètement utilisé à l'époque et dans tous les domaines. Et c'était dans le domaine physique, y compris dans le domaine physique. Par exemple, on disait que jeter une pierre en l'air, c'est lui imprimer un mouvement par violence, contrairement à sa nature qui est de descendre en bas. Et c'est uniquement par cette violence qu'elle s'élève. Donc des explications qui étaient entièrement basées sur ce genre de propositions. Dans le grand bouquin de Galilée, qui est le dialogue sur les deux grands systèmes du monde, donc 1632. Bon, je n'ai pas tout lu, mais il y a une grande partie des raisonnements qui sont... Enfin, le premier chapitre consiste à essayer de déblayer ce terrain des idées ontologiques. Déblayer l'idée que, forcément, la Lune doit être une perfection et qu'il n'y a rien qui se passe dans la Lune, il n'y a rien qui... ou sur le Soleil, par exemple, Galilée parle longuement des taches solaires qu'il a constatées et qui prouvent que sur le Soleil, il y a des choses corruptibles, des choses qui naissent et des choses qui meurent. Alors, c'est quelque chose qui peut nous paraître évident. Moi, je trouve ça assez émouvant dans le sens que je trouve que c'est très proche du travail qu'on fait aujourd'hui par rapport à l'intelligence animale. On aura une très courte intervention cet après-midi là-dessus. Non, mais je pense que c'est d'arriver à amener les gens à admettre que ce qui se passe loin, dans le Soleil, dans la Lune, c'est semblable quelque part à ce qui se passe sur la Terre. Que ce n'est pas un monde complètement différent. Alors qu'on voit très bien dans Galilée, parce que c'est un dialogue entre Galilée d'une part et d'autre part un autre qui s'appelle Simplicio, qui veut dire que ça vient un peu, je ne sais pas qu'il est chrétien, mais enfin bon, qui défend l'ancienne physique. Et donc, on voit les résistances à admettre le fait qu'il y a des choses communes entre le monde terrestre et le monde supralunaire, le monde céleste. Et c'est des résistances, je trouve, du même ordre, c'est-à-dire toujours essayer de ramener les phénomènes, même quand ils sont identiques ou presque identiques, à une interprétation différente d'un côté et de l'autre. Chez les humains, on dira ça, c'est de l'amour. Chez les animaux, on dira ça, c'est de l'instinct. Même phénomène. Un humain qui perd son enfant et qui reste silencieux, on dira il est en deuil, il éprouve un chagrin longtemps après. Un chimpanzé qui perd son enfant et qui reste silencieux, on dit voilà, il n'y pense plus quoi. C'est-à-dire constamment une interprétation opposée pour des faits qui pourtant, on le met sous le nez des gens. Et Galilée, il a vraiment eu à batailler, ça se voit dans ce bouquin, pour faire admettre que ce qu'on voit dans le monde céleste ressemble beaucoup à ce qu'on voit dans le monde terrestre. Ah, ici, je parle d'un argument donc, qui est dans ce bouquin, de Galilée, Dialogue sur les deux grands systèmes du monde, l'argument de la tour. Alors, ici, il s'agit de lever l'idée que la Terre ne peut pas, comme les astres, tourner sur elle-même. Elle ne peut pas avoir un mouvement. Donc, c'était un des grands arguments des gens qui étaient tenants de l'ancien système, qui était un argument pour l'immobilité de la Terre, qui est assez simple, qui dit, si j'ai une tour assez haute, je laisse tomber une pierre du sommet de la tour, elle tombe souvent suivant un mouvement rectiligne vers le centre de la Terre. Bon, ça c'est clair, hein, j'ai ça, je laisse tomber, ça arrive ici, le mouvement il est droit. Bon, on a l'impression qu'il n'y a rien à dire, nos sens nous l'apprennent, que c'est un mouvement rectiligne vers le centre de la Terre. Si on suppose que la Terre tourne, sa surface se déplaçant vers l'est, donc elle tourne comme ça, hein, avec le nord là, donc sa surface se déplace vers l'est, et que le mouvement de la pierre est rectiligne vers le centre, pendant le temps de la chute de la pierre, la Terre va se déplacer de plusieurs centaines de mètres vers l'est, et donc on devrait trouver la pierre, non pas au pied de la tour, mais beaucoup plus vers l'ouest. Le point de chute de la pierre devrait donc être à plusieurs centaines de mètres à l'ouest de la c'est pas de la pierre, c'est du pied de la tour. Pourtant, on constate que ce point de chute est au pied de la tour, donc la Terre ne tourne pas. Donc ça, c'était le raisonnement pour prouver que la Terre ne tournait pas. Donc ici, j'ai fait le schéma. Donc, la pierre, c'est ici, la tour, et ici, j'ai la pierre qui tourne. Donc l'idée, c'est que la pierre, elle tombe droit, elle tombe ici, la tour s'est déplacée, donc avec le mouvement de la terre, et donc on devrait trouver la pierre loin du pied de la tour. Réponse de Galilée. Imaginons que la terre tourne et que la pierre tombe en rasant la tour. Donc, au lieu de tomber droit vers le centre de la terre, elle tombe en rasant la tour. Elle tombera comme ça. Alors il dit, avoir une discussion sur est-ce que c'est un mouvement droit, c'est pas un mouvement, mais c'est deux mouvements qui sont mélangés, un mouvement circulaire, un mouvement. Quelle idée des vents. Je ne sais pas très bien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un mouvement oblique vers là. Imaginons que ça se passe. Eh bien, tombe au pied de la tour. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est-à-dire que là, la pierre rase la tour. Elle tombe au pied de la tour, elle fait un mouvement qui n'est pas droit vers le centre de la Terre, ça correspond à notre observation, et c'est un mouvement oblique. Donc la prémisse qui était de dire ça tombe droit, et bien en fait c'est une prémisse qui suppose démontrer ce qu'on cherche à démontrer, c'est-à-dire que la Terre est immobile. Si la Terre n'était pas immobile et qu'elle tournait, le mouvement ne serait pas droit, malgré l'impression qu'on a que c'est droit. On a l'impression que c'est droit uniquement parce que on a l'impression qu'on est immobile. Et donc, en faisant ça avec un raisonnement assez simple, Saint-Gissio, il reste un peu bouche bée, ce qui est facile parce que c'est un dialogue écrit par Galilée, donc il peut bien avoir raison dans son truc, mais enfin, moi, j'en reste un peu bouche bée aussi parce que c'est tellement simple comme truc. Donc, affirmer qu'elle tombe en mouvement rectiligne en direction du centre de la Terre, c'est présupposer que la Terre est immobile. C'est présupposer ce qu'on cherche à démontrer. Et là-dedans, ce qu'il a fait Galilée en une page, c'est le bouleversement d'une de nos catégories de base qui est le lieu. Parce que si on réfléchit bien, pour arriver à concevoir l'expérience qu'il vient de décrire, en réalité, ça revient à annuler l'idée qu'on a d'un lieu qui est un lieu fixe. Par exemple, si je dis si je dis par exemple où étais-tu hier, on me répondra oh ben hier j'étais au même endroit, j'étais ici, j'étais au même lieu. On a l'impression d'un lieu qui a une certaine identité, qui est ici. Quand on dit ici, on a l'impression de désigner quelque chose. Alors qu'en réalité, on peut se dire que si on se base par rapport au soleil, hier j'étais pas ici, j'étais, enfin même aucun d'entre vous n'était ici, vous étiez à. Je ne sais pas combien ça fait 2 millions de kilomètres à peu près d'ici. Parce que la Terre tournant autour du Soleil, elle a parcouru peut-être 2 millions de kilomètres c'est plus que 2 millions, ça va être 3, quelque chose comme ça en une journée. Donc, vous n'étiez pas au même lieu hier. Donc, notre catégorie de lieu, c'est quelque chose qui fait partie de notre expérience quotidienne et pourtant ne doit pas faire partie des règles de base de la physique. D'accord ? C'est omniprésence de cette catégorie dans la physique quotidienne, mais c'est une notion invalide au niveau théorique. Et ce qu'il a fait quand il a décrit, donc ici, la chute de la pierre, la manière dont on allait la percevoir en supposant que la Terre tourne, c'est ce que j'appelle un travail de recollement entre les deux niveaux. C'est-à-dire entre le niveau abstrait de la physique théorique et le niveau de l'observation. Il montre pourquoi, dans les conditions locales, exactes, précises de la Terre, on va avoir le sentiment d'un mouvement rectiligne, mais que c'est une illusion, ou en tout cas c'est quelque chose qui n'appartient pas à la physique. C'est-à-dire qu'il montre qu'il n'y a pas de contradiction entre le niveau théorique et le niveau appliqué, mais que pour arriver à les faire correspondre, il y a un certain travail de recollement, je l'appelle, je ne sais pas si ça a un autre nom, entre les deux niveaux pour expliquer pourquoi ça nous paraît différent de ce que nous dit la théorie. La relativité du mouvement, c'est la grande loi de Galilée, c'est dans le même livre. je vous lis le passage parce que c'est vraiment peut-être le passage. En un paragraphe, ils font de la physique moderne, grosso modo, quoi. C'est pour contrer l'idée que forcément le mouvement, si on était en mouvement, on le saurait. Il dit « Enfermez-vous avec un ami dans la plus grande cabine sous le pont d'un grand navire et prenez avec vous des mouches, des papillons, alors c'est pas très vegan, mais bon, il leur fait pas du mal non plus, et d'autres petites bêtes qui volent. Munissez-vous aussi d'un grand récipient rempli d'eau avec de petits poissons. Accrochez aussi un petit seau dont l'eau coule goutte à goutte dans un autre vase à petite ouverture placée en dessous. » Tout ça, c'est des exemples. Bon, le seau avec les gouttes qui tombent, c'est un peu la même chose que la pierre qui tombe droit. Donc, il suppose le navire est immobile. Dans les objections aristotéliciennes au mouvement de la Terre, il y avait par exemple aussi, si la Terre était immobile, ce serait beaucoup plus difficile de jeter un caillou en direction de l'Est, ça irait beaucoup moins loin, parce que la Terre tournant, ça rattraperait le caillou, que vers l'Ouest, parce que si on jette vers l'Ouest, la Terre elle se déplace, et puis le caillou il tombe beaucoup plus loin de là où on l'a jeté. Ce genre de choses, que les oiseaux auraient beaucoup plus de mal à voler vers l'Ouest que vers l'Est que vers l'Ouest, etc. Là, il dit, prenez des petites bêtes sous le pont d'un navire. Quand le navire est immobile, observez soigneusement comme les petites bêtes qui volent auront la même vitesse dans toutes les directions de la cabine. On voit les poissons nager indifféremment de tous les côtés. Les gouttes qui tombent entrent toutes dans le vase placé dessous. Si vous lancez quelque chose à votre ami, vous n'avez pas besoin de le jeter plus fort dans une direction que dans une autre lorsque les distances sont égales. Quand vous aurez soigneusement observé cela, bien qu'il ne fasse aucun doute que les choses doivent se passer ainsi quand le navire est immobile, faites aller le navire à la vitesse que vous voulez. Pourvu que le mouvement soit uniforme, sans balancement dans un sens ou dans un autre, donc le navire qui va vraiment comme ça, sans jamais changer de vitesse, vous ne remarquerez pas le moindre changement dans tous les effets qu'on vient d'indiquer. C'est-à-dire que les papillons voleront dans les deux sens de la même façon. C'est-à-dire que il n'y a aucun moyen de détecter que nous sommes en mouvement par rapport à l'immobilité. Et ça, c'est quelque chose qui était extrêmement difficile pour les gens d'accepter, mais lui, il l'affirme, et je pense que, enfin, il le raisonne aussi plus que ça dans ce livre, et donc il a grosso modo montré que c'est possible d'imaginer le mouvement, donc il a levé ses objections, qui sont les objections nées avec la physique quotidienne, et donc il fait ce travail de recollement. Donc la relativité du mouvement est contraire à l'expérience quotidienne. Quand on se déplace, ce sont des chaos habituellement dans une voiture. La relativité du mouvement contredit notre notion commune de lieu, parce que la relativité du mouvement dit que si je me place par rapport à la Terre, ici c'est le même lieu entre aujourd'hui et demain. Si je me place par rapport au Soleil, ici, ce n'est pas le même lieu, c'est à 2-3 millions de kilomètres de distance par rapport à hier et aujourd'hui. Donc la notion de lieu n'a plus lieu d'être en physique. Donc relativité, c'est le principe. La relativité, il en découle aussi le principe d'inertie, c'est-à-dire qu'une pierre lancée ne s'arrêtera jamais si on ne l'arrête pas, si aucun obstacle ne l'arrête. Ce qui semble contraire à notre expérience quotidienne, parce qu'on sait très bien qu'il faut mettre de l'essence pour faire 100 km, il faut mettre grosso modo deux fois plus d'essence pour mettre 200 km, il ne suffit pas d'avoir lancé la voiture pour qu'elle continue toute seule. Ce qui implique un travail de recollement, c'est-à-dire expliquer pourquoi il faut continuer à mettre de l'essence dans la voiture, elle ne va pas avancer toute seule, continuer à avancer toute seule, comme le prévoit la physique théorique. Eh bien, il y a le fait qu'il y a la résistance de l'air, la résistance des frottements sur la route, et ainsi de suite. Donc, il faut faire intervenir des phénomènes qui sont, du point de vue, disons, qui correspondent aux conditions locales de la Terre, pour dire pourquoi la voiture s'arrêtera. Alors que si la voiture était lancée dans l'espace intergalactique, eh bien, elle continue tout droit, elle n'a pas besoin de. Elle a besoin juste de. Disons de l'essence pour démarrer, mais elle n'a pas besoin de consommer de l'essence en continu pour continuer. Alors je note ça, le film Gravity, ça m'a ça m'a, je sais pas si c'est pas Gravity en français aussi, oui, ça m'a frappé que c'est, il y a une scène où ils sont en apesanteur, ils sont tournés autour de la Terre, et à un certain moment, il y en a un qui est attaché, enfin une catastrophe qui se passe, et puis il y en a un qui est attaché à un filin, attaché à son satellite, sa base, je ne sais plus quoi, et puis le satellite tire la personne, et puis à mesure de tirer la personne, et bien le filin il reste tendu. Ça c'est complètement contraire à la réalité de la physique, au principe d'inertie. Une fois qu'il a commencé à tirer la personne, il n'a plus besoin, le filin n'a plus besoin d'être tendu, il n'a plus à exercer une force. Là on a l'impression que le filin il doit continuer à exercer une force, bien que le mouvement soit un mouvement uniforme, sans s'arrêter. Nos projections, même dans un film qui se voulait scientifiquement à peu près correct, nos projections continuent à être des projections suivant notre vision des choses, très influencée par l'ancienne physique aristotélicienne dont il nous est difficile de nous défaire. Mais la réalité, c'est que dans l'espace, une fois un mouvement amorcé, il n'y a pas à le continuer, et y compris sur Terre, dans beaucoup de situations, et même toujours, si la voiture elle s'arrête, c'est parce qu'il y a des choses qui l'arrêtent. D'accord ? C'est pas la voiture, s'il n'y avait pas le frottement des roues, s'il n'y avait pas la résistance de l'air, elle continuerait indéfiniment. Donc le résultat de la révolution copernicienne, comme je l'ai appelé, qui c'est le terme habituel, mais je dis galiléenne, parce que c'est vraiment Galilée qui a fondé cette nouvelle vision de la physique, la physique moderne. Donc c'est d'une part l'unification des deux mondes, c'est-à-dire qu'il n'y a plus une physique différente pour le monde céleste et pour le monde terrestre. L'unification, par contre, ne contredit pas la particularité de la Terre, c'est-à-dire que ce qui existe sur Terre, c'est qu'il y a un corps pesant qui nous attire vers le bas, que donc ça c'est quelque chose qui est partagé avec toutes les autres planètes, qui n'est pas universel, parce que dans l'espace entre les planètes, il n'y a pas cette attraction, que les choses frottent, que sur Terre, il y a une certaine température, etc. Et il y a aussi le fait que sur la Terre, c'est une planète, si on la regarde du ciel, on voit des évolutions beaucoup plus grandes que ce qu'on voit par exemple sur la Lune, ou parfois on voit des calottes de Mars qui fondent un petit peu, des trucs comme ça. Mais ce qui se passe dans les planètes autour de nous, c'est beaucoup moins dramatique que ce qui se passe sur Terre. Donc il y a des particularités de la Terre que la nouvelle physique ne nie pas, explique, est capable de prendre en compte. Donc, par contre, elle accepte que les lois physiques, elles sont valables partout, qu'il y a un certain nombre de particularités terrestres qui se retrouvent ailleurs, c'est ce que je dis là, sur Mars. L'unification permet de comprendre des situations par contre extrêmement différentes de ce qu'il y a sur la Terre, c'est-à-dire en fondant la physique sur des lois universelles, on est capable par exemple de comprendre l'intérieur des étoiles, on est capable de comprendre le Big Bang, enfin jusqu'à un certain point, d'arriver à les comprendre, les analyser. Et ce que je note, c'est qu'en retour, c'est grâce au fait qu'on est allé voir les étoiles et qu'on a compris comment ça se passe dans les étoiles, et bien qu'on comprend la physique sur Terre, quoi. Tant qu'on restait le nez sur la Terre, avec obnubilé par nos particularismes terrestres au niveau physique, et bien on n'arrivait pas à comprendre la physique, parce que la vision de nos particularismes terrestres était un obstacle au fait de dégager des lois universelles qui nous permettent en retour de comprendre la situation sur la Terre. Les deux niveaux, donc, il y a le niveau théorique où il y a la relativité du mouvement, l'isotropie de l'espace, c'est-à-dire que toutes les directions de l'espace, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, il n'y a pas de gauche ni de droite, l'inertie. Au niveau pratique, par exemple, par contre, l'ingénieur, il ne faut pas qu'il oublie qu'il y a le haut et le bas quand il construit son pont. C'est-à-dire qu'il doit prendre en compte la réalité des particularités locales et le travail de recollement entre ces deux niveaux. D'accord ? Maintenant, j'en viens à la question de l'éthique, l'inadaptation des éthiques déontologistes au monde humain. Donc, comme je disais, la physique d'Aristote était adaptée au monde terrestre, le monde céleste était supposé régi par des lois toutes différentes. Notre éthique traditionnelle, de même, d'origine aristotélicienne et chrétienne, est adaptée au monde humain. Et Moi, je pense que le mouvement animaliste, jusqu'à maintenant, a beaucoup tenté d'appliquer directement notre éthique préexistante formée dans le monde humain au-delà du monde humain. Ce qui marche, je pense, en grande partie pour les animaux qui sont les plus proches de nous, mais qui devient très difficile quand on va voir des animaux proches de beaucoup plus lointains par rapport à nous, que sont d'une part les animaux sauvages, qui sont pas si loin de nous, disons physiquement dans la constitution, pas forcément, mais qui sont loin de nos yeux, que nous ne connaissons mal, disons, et tous les animaux, je dirais, les animaux petits, les insectes, les invertébrés, les tout petits poissons, etc., qui sont certainement au niveau psychologique très différents de nous, mais qui, je pense, sont sentients. En tout cas, je dirais à 90% que malheureusement, il y a probablement beaucoup, beaucoup d'êtres sentients minuscules et dont la vie n'est pas très amusante. Donc, pour arriver à avoir une éthique qui s'adapte à ces êtres qui sont très loin de nous, voilà, il faudrait, je pense que l'éthique déontologiste que nous avons habituellement ne marche pas. Donc, je pense que cette éthique est inadaptée au-delà du monde humain. Le niveau théorique est essentiel pour l'unification. Bon, c'est ma thèse, hein, c'est que l'éthique doit être sur une base conséquentialiste, donc opposée au déontologisme, c'est-à-dire c'est les conséquences qui importent, et c'est la sentience qui est au cœur de l'éthique. Je ne dirais pas que je suis certain que la seule chose qui importe, c'est vraiment le plaisir et la douleur. Il y a peut-être d'autres choses qui importent. Donc je ne dirais pas que je suis un utilitariste hédoniste absolument pur, c'est-à-dire que l'hédonisme, ça veut dire considérer que la seule chose qui importe, c'est le plaisir et la souffrance. Peut-être qu'il y a d'autres choses, mais tout ce qui importe, je dirais, est forcément basé sur la sentience, centré sur la sentience. Et je pense que c'est ça la nouvelle éthique. Et le problème, c'est que cette nouvelle éthique, comme je vous le dirais, on a l'impression qu'elle est très contre-intuitive dans un certain nombre de cas. Alors, je reviens donc sur l'ancienne éthique. Les valeurs centrales des éthiques déontologistes, et l'éthique ancienne est fondée sur une vision ontologique, axiologique. Je vous ai dit tout à l'heure sur l'ontologie, donc c'est la nature des êtres, et l'axiologie, c'est on donne une valeur à partir de cette ontologie aux choses. Il y a une hiérarchie des êtres, tous les discours d'Aristote, c'est ça. Vous avez les êtres supérieurs, les êtres inférieurs sont là pour servir les êtres supérieurs, les plantes sont inférieures aux animaux, qui eux-mêmes sont inférieurs aux humains, donc les plantes, les animaux les mangent, et puis les humains mangent les animaux. On déduit une proposition éthique de cette nature des êtres et de cette hiérarchie. Cette hiérarchie, c'est entièrement basé sur les notions de supérieur et d'inférieur. Alors là, il y a un gros morceau, je pense, sur ces notions de supérieur et d'inférieur. Ça imbibe tous les esprits, au point que, par exemple, beaucoup de gens disent « je suis antispéciste ». Je pense qu'il n'y a pas que les animaux sont super, enfin, qu'il n'y a pas de supériorité ni d'infériorité entre les animaux et les humains, mais ils sont égaux. Mais en même temps, ils le disent d'une manière en conservant la notion de supériorité et d'infériorité. Que les animaux sont aussi nobles que les humains, que les animaux ont la même dignité que les humains, c'est-à-dire un ensemble de critères qui sont d'ordre ontologique, qui sont. Je pense que c'est. Il ne faut pas dire. Il n'y a pas de supériorité ni d'infériorité, mais dire que la notion même de supériorité et d'infériorité est dépourvue de sens, parce que ça désigne une sorte de nature des êtres qui est un objet qui physiquement n'existe nulle part. D'accord ? Donc, voilà, je donne une objection habituelle à l'antispécisme, mais les animaux se mangent entre eux, vouloir que nous ne les mangions plus parce qu'ils sont nos égaux, c'est nous vouloir supérieurs à eux, c'est-à-dire vouloir nous donner un comportement plus noble que eux. Donc il y a une contradiction, parce que justement on considère qu'ils sont égaux, donc on ne peut pas les manger, mais en même temps, en disant ça, on nous place dans, on se place dans une, on se donne un comportement éthique supérieur, donc on se considère comme supérieur, donc on n'est pas leurs égaux. Ça, c'est le genre d'objection qu'on fait tout le temps, mais qui est entièrement, enfin, qui repose sur rien sauf un discours ontologique en termes de supériorité et d'infériorité. Le fait que, voilà, je note aussi, sens, on leur donne un sens absolu à ces notions. La valeur, la noblesse, la dignité, la perfection, l'imperfection, mérite, culpabilité, qui détermine comment on doit traiter ces êtres. Dans Galilée, sur, quand il est en train de discuter de l'ancienne physique, les objections qu'on lui fait sont toutes de cet ordre-là, sur la supériorité des astres, l'infériorité des choses corruptibles, etc., la noblesse, la dignité, tout ça. Il y a une centralité de la notion de personne, c'est tout en haut là, notion de personne, de personnalisme, c'est quelque chose qui est très, très important dans nos éthiques humaines. Nous sommes des animaux qui vivons longtemps, très longtemps par rapport à la plupart des animaux. La plupart des animaux, une souris, c'est au mieux 2-3 ans. Il y a beaucoup d'insectes qui vivent que quelques jours ou quelques semaines. Il y a très peu d'animaux qui vivent 80 ans et plus. Enfin, il y en a quelques-uns, des gens de tortues, tout comme ça, mais à part ça, il y a très peu. C'est exceptionnel que nous vivions si longtemps, c'est exceptionnel aussi que nous ayons une société si structurée, qui nous donne aussi ainsi une identité. Donc notre particularisme humain fait que nous avons cette notion de personne très fortement. Je pense que la personne n'est pas un élément central de l'éthique, que c'est d'une certaine façon une illusion entretenue par ces éthiques anciennes, mais aussi par nos particularismes humains, où on considère qu'on est la même personne depuis la naissance jusqu'à la mort à 90 ans, que c'est la même personne, alors que c'est pas la même personne, ni physiquement au niveau de ses atomes, ni psychologiquement, ni à aucun niveau, mais nos éthiques déontologiques sont basées sur la notion de personne. Alors que si on veut appliquer ça aux animaux, pour certains, ça marche probablement jusqu'à un certain point, pour les gorilles, mais appliquer ça à une mouche ou à un papillon qui se transforme de chenille en papillon avec pratiquement une désorganisation totale de tout son organisme et qui se réorganise après, quel sens ça a de dire que le papillon c'est la même personne que la chenille, quoi. Avec cette notion de personne vient l'idée que la mort est le mal suprême. Je pense que la mort en soi devrait être considérée comme quelque chose qui n'est pas un mal. C'est paradoxal à un certain nombre de niveaux, je ne vais pas rentrer dedans, mais que ce qui est bien, ce sont les événements de conscience, plus que la notion de continuité et de destin individuel, de toutes ces notions-là. Bon, éthique centrée sur l'agent, constamment on nous renvoie à l'éthique, c'est des choses comme faire des choses vertueuses, donc c'est l'intention qui compte et ainsi de suite. Par exemple pour la prédation on dit il n'y a pas de mal à ce que le lion tue la gazelle car le lion n'est pas capable de réflexion éthique. Demander à la gazelle ce qu'elle en pense, quoi. Moi c'est la gazelle qui compte dans l'histoire plus que le mérite qu'on peut attribuer au lion. Le relationnisme, c'est-à-dire l'idée qu'on a des devoirs particuliers envers ses proches, devoir de respecter les contrats, ainsi de suite, c'est-à-dire des choses qui sont très peu adaptées à, si on veut, s'occuper des animaux non humains. Ça se sent dans beaucoup d'objections qui disent on doit abolir l'élevage parce que c'est nous qui les avons créés et mis dans une situation de souffrance, alors qu'on n'a aucun devoir envers les animaux sauvages parce qu'on n'a pas de relation avec eux. Donc cette idée que c'est notre position par rapport à l'autre qui nous donne des devoirs. Une réponse à l'antispécisme, donc sur la valeur des êtres, les humains valent plus que les souris. Donc toujours cette idée de supériorité. Le problème des innombrables, probablement sentients, c'est-à-dire quand on marche sur l'herbe, on tue des insectes. Souvent, les gens, y compris, ils disent « Bon, je suis vegan, je mange pas de miel, par exemple. Je suis vegan, je mange pas de miel parce que les insectes, je ne veux pas les exploiter, etc. » Moi, c'est souvent que je leur réponds, mais bon, tu marches dans l'herbe, en marchant dans l'herbe, tu tues des insectes aussi. Et puis, tu manges du sucre à la place du miel. En mangeant du sucre, tu tues aussi tous les insectes qui sont écrasés dans la fabrication du sucre. Alors, leur réponse est toujours « Ah oui, mais d'un côté, je ne fais pas exprès, de l'autre côté, je fais exprès. » C'est-à-dire, si je mange le miel, je fais exprès de le faire, de les exploiter. Pour le sucre, c'est contre ma volonté. Je sais très bien que les insectes sont écrasés, tu me l'as expliqué, mais c'est contre ma volonté. Enfin, je n'ai pas choisi qu'ils soient écrasés. Donc, moi, ça me fait penser à quelqu'un qui traversait tous les jours à 100 à l'heure un village à l'heure de la sortie des enfants de l'école, qui, chaque jour, il en écraserait deux ou trois, sans faire exprès. On n'a pas fait exprès. On lui dit, tu écrases des enfants tous les jours. Ah oui, non mais moi, je le fais sans l'intention de faire. Je sais très bien qu'en écrasant, en passant à 100 à l'heure, je vais écraser des enfants. Mais je suis innocent parce que je ne fais pas exprès de les écraser. Quoi. Bon.
C'est pas moi qui les ai mis sur le trottoir.
Oui, c'est pas moi qui les ai mis sur le trottoir. Ils avaient qu'à ne pas être dans la canne à sucre quand on a écrasé la canne à sucre pour faire le sucre. Donc cette idée constamment que c'est du côté de l'agent que les choses comptent et pas au niveau de la réalité du sujet. Donc c'est ce que j'appelle la casuistique, enfin le terme n'est peut-être pas exact, mais c'est les anciennes façons de raisonner très chrétiennes, de dire qu'on doit raisonner en fonction de l'intention de l'agent et ce genre de trucs-là. Je note aussi la notion de mérite et de punition qui n'ont plus aucun sens quand on les applique au monde humain, ou en tout cas un sens certainement beaucoup plus relatif. Et donc ce pourquoi je suis, c'est-à-dire la nouvelle éthique qui, grosso modo aussi, je note que Peter Singer qui a lancé le mouvement de libération animale aussi se définit comme un utilitariste, conséquentialiste, donc une éthique conséquentialiste centrée sur la sentience, tout comme un physicien est distinct de son objet, c'est-à-dire le physicien quand il dit le système, ben, cette réaction chimique a émis de la chaleur, il n'est pas en train de parler de tout. C'est sûr que la physique est un sujet créé par les humains en tant que discipline, mais l'objet de la physique, ce ne sont pas les humains. L'objet de la physique, c'est la réalité. Les jugements du physicien sont vrais ou faux indépendamment des caractéristiques du physicien. Je dis, les jugements éthiques doivent être indépendants de l'agent. C'est-à-dire qu'on est en train d'étudier un monde où nous cherchons à comprendre ce monde, c'est notre étude de ce monde, c'est une discipline que nous créons, mais nous cherchons à savoir ce qu'est réellement ce monde. Et nous cherchons à considérer les actions. Si tel individu souffre dans le monde sauvage, par exemple le monde naturel, qu'on ait, nous, une relation ou pas avec cet individu, ça ne change rien. Il est juste de chercher à sauver cet individu. Un exemple souvent mis en avant par les partisans de l'éthique et de déontologie, c'est si dans un incendie je ne peux sauver qu'une personne et qu'il y a plusieurs personnes qui vont mourir, je dois choisir de sauver mon père. Parce que c'est mon père. Voilà. Donc j'ai une relation particulière avec mon père, donc qui me donne un devoir particulier de sauver mon père. Je pense que au niveau des lois générales de l'éthique, il n'est pas juste de vouloir sauver son père plutôt qu'un autre. Il peut être juste de sauver son père si on a un père qui est particulièrement heureux de vivre, par exemple, plus que les autres. Il peut y avoir des raisons de choisir telle personne plutôt que telle autre, mais ces raisons sont valables pour tout le monde, que ce soit mon père ou que ce ne soit pas mon père. Donc le devoir de sauver mon père est le même que celui de toute autre personne de sauver mon père. Il dépend du plaisir à vivre de mon père, du bien qu'il fait à autrui, etc. D'accord ? Donc ce sont des règles générales et abstraites, indépendantes de moi qui doivent valoir. De la même manière, la difficulté de... Nous, on est des êtres qui tenons à notre vie, difficulté à étendre notre notion de valeur suprêmement importante de la vie au-delà de l'espèce humaine, Donc, par contre, supposons que ces puces soient sentientes, je pense qu'elles le sont, pas forcément de façon très complexe, mais supposons que ça soit sentience, les gens, y compris les animalistes, il n'y a personne qui dira ah, ben, je laisse les puces manger mon chat parce que je ne vais pas tuer 200 puces pour, simplement pour le plaisir de mon chat. Les animalistes tuent tout le temps les puces sur les chats. Que je fais aussi, avec l'idée aussi que si je ne le fais pas maintenant, je le ferai plus tard, et il y aura plus de puces à tuer. Donc il vaut mieux le faire le plus tôt possible. Mais si je disais tous les êtres sentients leur vie à la même valeur, je ne pourrais pas le justifier. Ah bon, on pourrait dire, oui, le fait que moi je le fasse et que tout le monde le fait, prouve pas que c'est juste de le faire. Mais je pense que c'est juste de le faire, je pense que notre intuition à ce niveau-là est juste, mais ça implique qu'on ne peut pas accorder la même valeur à la vie de tous les individus. Donc il faut sortir des raisonnements qu'on a habituellement par rapport aux humains, où on dit habituellement tous les humains, la vie de tous les humains a la même valeur. Il faut sortir un petit peu de ça si on va au-delà de l'humanité. Je note sur le fait que les non-humains ont souvent une vision de leur continuité dans le temps. Les non-humains une vision de continuité dans le temps plus limitée que les humains, ce qui peut être une manière d'expliquer pourquoi il est moins grave de tuer une puce qu'un humain, et peut-être moins grave de tuer une puce qu'un chat. Donc la notion de personne, on peut beaucoup moins facilement l'appliquer à la puce. Donc j'en viens donc à ce que je dis depuis le début, hein, sur l'utilitarisme à deux niveaux, c'est quelque chose qui a été... affirmé de façon formulée, disons, par Hare, ce philosophe britannique, mais qui correspond à une longue tradition utilitariste, qui est de dire, grosso modo, oui, on ne va pas à chaque fois qu'on fait quelque chose se demander est-ce que ce qu'on fait va augmenter la valeur totale du bonheur dans le monde ou pas. On a un certain nombre de règles pratiques qui correspondent à l'application pratique des règles universelle générale aux situations pratiques connues dans la société humaine. Donc je note John Stuart Mill qui est du 19e siècle donc, qui avait parlé de ça. Donc les lois universelles de l'éthique ne sont pas à appliquer directement. Exemple, la dignité est une notion vide, mais l'humanité est une espèce sociale. Parce que le bonheur des humains dépend du respect de leur dignité, il est bon de respecter cette dignité. Parce que, simplement, c'est la loi générale universelle qui dit qu'il est bon d'augmenter le bonheur dans le monde. Pour augmenter le bonheur dans le monde chez les humains, eh bien, il faut tenir compte de la notion de dignité. Mais que la notion de dignité, qui est considérée comme une notion fondamentale dans les éthiques déontologistes, n'est pas une notion réelle éthique au niveau théorique. Punir est a priori un mal, parce que ça fait du mal à l'être qui est puni, ça fait de la souffrance, mais ça peut être bon comme dissuasion. Bon, punir, ça marche comme dissuasion, encore que, bon, mais pour les humains, on peut espérer que ça marche pour les humains, punir une puce parce qu'elle nous a mordu, je doute que c'est une efficacité quelconque. Donc, il n'y a pas à considérer qu'il y a un mérite chez la puce, ou un démérite. La notion de mérite n'a plus de sens, n'a pas de sens éthique fondamental. Un autre exemple qui est l'idée d'autonomie, nous aimons tous penser que nous sommes libres, nous tenons à être libres et à faire aller venir comme nous voulons, nous n'avons pas envie d'être manipulés par un autre, aussi parce qu'on a une notion de notre dignité qui dépend de notre égalité, etc. Si nous étions manipulés par un autre, c'est que nous serions inférieurs, etc. Enfin, tout un tas de choses qui correspondent à notre psychologie sociale d'être humain. Si on manipulait les lions pour qu'ils ne soient plus prédateurs, est-ce que ce serait un mal? Est-ce que la notion d'autonomie a un sens pour les lions? Je ne pense pas. Et donc je pense que ça pourrait être parfaitement correct de manipuler les lions, alors que ce ne serait pas correct de manipuler un être humain, parce que la psychologie réelle des êtres humains est différente. Donc vous voyez, une notion des principes théoriques généraux et de l'application suivant la situation particulière à laquelle on cherche à l'appliquer, avec ce travail de recollement éthique, comme par exemple expliquer pourquoi il est juste que nous respections nos promesses en général, pourquoi il n'est pas juste peut-être en soi que nous donnions une priorité à nos proches, sauver son père dans un incendie, etc. Mais peut-être qu'il est bon que nous le croyions, parce que les êtres humains, s'ils ne donnent pas priorité aux personnes dont ils sont proches, disons qu'ils vont, ils vont avoir du mal à exercer leur compassion dans la vie quotidienne. Exercer notre compassion, c'est quelque chose qui nous rend plus prompt à agir de manière correcte. Mais avec des limites, sachant qu'on considère généralement pas très bon que, par exemple, quelqu'un qui est à une position d'autorité, qui est ministre ou quelque chose comme ça, favorise son neveu pour un poste dans le ministère. Donc, on sait déjà qu'il y a des limites à cette idée de favoriser ses proches. Et de façon générale, je pense que ça devrait être considéré comme une réalité beaucoup plus générale, c'est-à-dire que quand les gens disent comme un type célèbre qui avait dit je préfère ma fille à ma nièce, je préfère ma nièce à ma voisine, je préfère ma voisine à un autre Français, je préfère les Français aux étrangers. Donc il avait dit ça, mais c'est un exemple typique de l'application de cette idée de priorité donnée à ses proches. Et donc je pense que la pensée qui correspond à ça, c'est quelque chose qui est grosso modo à mettre à la poubelle, enfin en tout cas en large partie. De même la question de punir, tous les gens qui veulent arracher les tripes au toréador et tout ça, je pense que ça n'a aucun sens, quelque part. Si c'était dissuasif, ça aurait peut-être un sens, mais voilà. Donc en tout cas, c'est pas une idée éthique de base. Les conséquences en retour, donc de la même façon que la physique universelle de Galilée, ça n'abolit pas le fait qu'il faut mettre de l'essence dans la voiture pour qu'elle continue à avancer, mais c'est la physique de Galilée qui, même appliquée sur Terre, a permis toutes les avancées de la physique. Vos téléphones portables, c'est une conséquence de la physique de Galilée. Le GPS, c'est la physique de Galilée, enfin, avec beaucoup de développement après, mais c'est les conséquences bien réelles et concrètes sur la Terre. Donc, on est passé par les astres pour revenir à comprendre la physique sur la Terre. De la même façon, je pense que l'éthique universelle sentientiste n'abolit pas les particularismes humains, mais permet de les comprendre et permet d'avoir une vraie éthique sur la Terre. Par exemple, le problème de l'avortement, au lieu de poser la question ontologique que tant de gens posent encore, de dire est-ce que le fœtus est un humain, bon. Pensant que s'il est humain, alors sa vie est sacrée. Il est mal de le tuer. S'il n'est pas humain, il est juste de le tuer. Donc, à partir d'une déclaration de nature, on va en déduire le mal ou le bien. Je pense que la question à se poser, c'est est-ce que le fœtus est sentient ? Est-ce qu'il est juste... est-ce que c'est un mal de le tuer ? À partir de quand il est sentient ? Il est aussi, a priori, il n'est pas sentient, en tout cas largement dans la première moitié de la grossesse. Et quelles seraient les conséquences sociales, psychologiques, etc., du fait de permettre ou d'interdire l'avortement. Ce n'est pas une question sur une base ontologique. Le fait, là je note, donc c'est un peu mon dada, hein, j'en ai déjà parlé, critique de la notion de personne, moins nous soucier de notre identité personnelle, moins nous soucier de notre... de notre retraite, de ce qui nous arrivera à nous, mais plus nous soucier de l'ensemble des sentients. Et c'est aussi comme ça, je pense, qu'on peut arriver à résoudre un des problèmes les plus importants de notre monde humain, qui est le problème de la mort, l'angoisse de la mort, etc., qui, à mon avis, est un grand moteur de pourquoi nous faisons plein de choses mauvaises. Un grand fondateur des religions, un grand fondateur de beaucoup de choses. Je pense que si nous avions moins, si nous pensions beaucoup plus aux humains, peut-être un peu comme les mouches, c'est-à-dire qui vivent peut-être plus dans l'instant, peut-être pas entièrement dans l'instant, d'autres sont certainement beaucoup plus compétents que moi sur le sujet, mais je pense quand même que il y a de ça, c'est-à-dire plus penser en termes de quantité de bonheur et de malheur, de souffrance, etc., que de savoir à qui appartient ce bonheur et ce malheur. Nous aurions beaucoup moins peur de notre mort, parce que c'est clair qu'il y a une vie après notre mort, qui est la vie des autres, et donc que c'est ça qui compte plus que savoir si nous allons mourir ou pas. Bon, je termine avec un peu un résumé de tout ça, le plan du parallèle. Donc, entre les deux centrismes en question, le géocentrisme et l'humanocentrisme, l'un qui a été, ça c'est Copernic, quand il a écrit son traité, ou comment c'est appelé, sur le mouvement des planètes, Galilée 1632, c'est marqué en dessous, et en 1974, l'article de Peter Singer sur la libération animale, et puis le bouquin en 1971. L'unification en question, donc le parallèle porte sur l'unification, entre, au niveau physique, entre le monde terrestre et le monde des astres, et au niveau éthique, entre l'humanité, et la nature, l'humanité d'un côté et la nature de l'autre. Et le résultat de cette unification, c'est d'un côté l'univers physique et de l'autre côté l'univers sentient, disons. Dans l'ancienne vision, il y avait des deux côtés, tant du côté physique qu'éthique, la prédominance de ce que j'appelais l'ontologie axiologique, c'est-à-dire la valeur qui découle de la nature des objets ou des êtres. La Terre était vue comme le monde du changement, de la vie, de la mort, de l'imperfection, de la liberté, des passions, des plaisirs, des souffrances. En éthique, c'est l'humanité qui est vue comme étant le monde de l'imperfection, parce qu'on dit ce qui particularise l'humanité, ça a été le thème du livre de Luc Ferry, par exemple, c'est que les humains sont perfectibles, donc ils sont imparfaits. Je crois que Descartes avait sorti celle-là aussi. Il dit les abeilles, elles font tout le temps le même plan de leur nid, de leur ruche, c'est des hexagones parfaits. Elles le font sans y penser, de naissance, elles ne sont pas perfectibles, alors que les humains doivent apprendre, etc. Et puis ils ont la liberté de faire le bien, de faire le mal, etc. Donc vous voyez le parallèle entre le monde terrestre au niveau physique et l'humanité. Par contre, les astres, c'est le monde de la perfection, de l'immutabilité, de l'éternité, de l'indifférence, du déterminisme complet, c'est-à-dire tout est déterminé, ça tourne, ça tourne, ça tourne. La nature, au niveau éthique, c'est le monde de la permanence, c'est-à-dire l'idée de l'équilibre naturel, les montagnes sont là depuis toujours, alors que les humains ne font que passer, d'un déterminisme, de l'indifférence morale, d'une importance éthique, c'est-à-dire que les choses qui se passent dans la nature n'ont aucune importance. Le renard mange la souris, le lendemain le renard mange la souris, le renard mange la souris. Chaque jour c'est la même chose, que la souris souffre, bon, ben, c'est une espèce de non-souffrance, parce que la nature est amorale, les gens le disent tout le temps. Et disons que ce qui est caractéristique de ces deux niveaux, de ces deux domaines, de l'ancienne vision de la physique et de l'éthique, c'est l'unicité des niveaux, c'est-à-dire qu'on confondait la physique avec la physique sur Terre. On confond l'éthique avec l'éthique telle qu'elle est, adaptée à l'humanité, avec les intuitions que nous avons de ceci est mal, mentir c'est mal, etc., qui sont des choses qui s'adaptent très mal au-delà. Donc dans l'ancienne vision, impossibilité d'appliquer la physique terrestre au monde des astres et inadaptation d'éthique humaniste, déontologique aux animaux, au monde humain, et inadaptation croissante avec la distance de ces animaux. Dans la nouvelle vision, par contre, des deux côtés, étant physique que éthique, il n'y a plus d'ontologie axiologique. Il y a des lois générales universelles, comme la relativité du mouvement, la loi de l'inertie, etc. Et en éthique, il y a la théorie éthique conséquentialiste, sentiente, universellement valable, quelle que soit l'espèce. Il y a la difficulté, l'apparente contradiction entre ces lois universelles et l'expérience, et l'apparente immoralité d'un certain nombre de propositions de l'utilitarisme, par exemple, dans les cas concrets. Par exemple, des gens qui disent on doit sauver son père en priorité, puisque c'est votre père, etc., que nous avons des liens avec, et que les utilitaristes qui n'acceptent pas ça. Bon, il y a plein de polémiques anti-utilitaristes qui disent que l'utilitarisme, que cette vision est très mauvaise, mais sur la base, je dirais, d'une incompréhension de la nécessité de ces deux niveaux. Et donc la résolution des contradictions par le fait d'avoir deux niveaux, en physique théorique et physique de l'ingénieur, et de l'autre côté, le niveau critique et le niveau intuitif de Hare. Ce qui permet un mouvement d'ouverture aux astres, comprendre les astres à partir de la physique terrestre, sortir de notre prison terrestre. Donc personnellement, quand je vois aujourd'hui les progrès qu'on fait dans la détection des planètes, dans les, je ne sais pas, 1000 années-lumière autour de notre système solaire, je commence à avoir l'impression pratiquement que voilà, on est chez nous dans l'univers, quoi. On est chez nous dans le cosmos, la Terre a des particularités, ces particularités doivent se retrouver ailleurs, sont des êtres peut-être très différents, mais qui sont fondamentalement comme nous, à beaucoup de niveaux. Au niveau de l'éthique, donc étendre notre éthique à tous les êtres sentients, y compris au plus lointain de nous, et sortir de notre prison humaine, de notre vision humaine. Et en retour, ce mouvement d'ouverture permet de revenir sur Terre et de mieux comprendre la physique sur Terre, débarrasser des illusions aristotéliciennes et, pour l'éthique, une meilleure éthique, y compris pour les humains, où on ne se pose plus la question de savoir si le fœtus est humain ou pas. La réponse est que, évidemment, il est humain. Pardon ?
Et c'est pas le problème.
Oui, c'est pas le problème. On s'en fiche qu'il est humain. On s'en fiche de. C'est pas sa nature d'être humain qui va nous dire s'il est juste ou pas de le tuer. Et débarrasser des illusions ontologiques. Donc, c'est en regardant au-delà de la Terre que la physique a permis de comprendre les étoiles dans toute leur étrangeté et permis de comprendre ce qui se passe sur la Terre. Se sentir chez soi dans l'univers entier. Et c'est par l'universalisation de l'éthique et la mise en arrière-plan de notre particularisme humain que nous pourrons explorer et comprendre l'ensemble du monde sentient et nous comprendre nous-mêmes et nous voir comme des sentients parmi les sentients. Et je pense que cet après-midi, on aura donc cette conférence qui nous en dira un peu plus sur cette exploration du reste du monde des sentients qui nous permet aussi de mieux nous comprendre nous. Voilà, merci.
Et
présente, ni à penser, et ce n'est pas à dire, hein, je pense qu'il faut admettre l'idée que l'autonomie d'un être sentient et le plaisir qu'il trouve à son autonomie ne peut pas aller à ce point-là, au-delà du besoin pour d'autres êtres sentients à vivre. Enfin, en conséquence de quoi, je pense que les lieux n'ont probablement pas réellement envie d'être stérilisés de force, n'ont probablement aucune envie pour les laisser mourir de faim, et probablement que si on arrivait à leur expliquer la situation concrètement, ils n'auraient aucune envie de faire l'espèce disparaître. Mais en fait, on s'en fout, quoi. Enfin, il y a quand même un tas de proies aujourd'hui qui ont besoin de notre aide, et il y a sûrement plein de situations où les humains voudraient l'autonomie pour pouvoir continuer à faire le mal, mais je pense que dans la même situation, on n'est pas supposé respecter cette autonomie non plus, parce qu'il y a des impératifs moraux plus gros que l'autonomie que les êtres sentients peuvent consentir. Voilà.
Ben, je ne sais pas si je vous réponds parce que je suis assez d'accord en fait, mais bon, moi c'était un exemple vraiment mentionné en passant. Là. Mais je pense que c'est des questions qui impliquent. Enfin, par exemple, je pense que les chiens sont contents d'être ordonnés par les humains. Enfin, j'en sais rien en fait, mais j'ai l'impression par exemple entre les chiens et les chats, il y a une grosse différence. Donc, la notion d'autonomie n'est pas forcément une notion éthique fondamentale, alors qu'elle l'est dans les anciennes éthiques. Donc il faudrait savoir un petit peu comment ça se passe dans la tête des lions. Ceci étant que, effectivement, de toute façon, ça ne change rien à la conclusion, comme tu dis, que ce n'est pas parce qu'ils ont envie d'une autonomie qu'on doit leur laisser pour faire du mal. Mais au niveau de savoir jusqu'à quel point c'est un mal de faire, dans l'absolu, en mettant de côté les intérêts des gazelles, je pense qu'il y a deux choses qui interviennent dans notre attachement à la notion d'autonomie. Il y a ce que j'ai mentionné, l'idée d'égalité, de ne pas être soumis à un autre humain, parce que c'est notre dignité qui est en cause. Les personnes qui croient en Dieu, ça m'a toujours étonné de voir que ces personnes-là, par contre, n'ont pas de souci avec le fait qu'elles n'ont pas d'autonomie face à Dieu. C'est-à-dire que Dieu, c'est Dieu qui leur, qui leur donne une maladie, c'est Dieu qui... Pardon ? Enfin, qui les tue à un certain âge, etc. Donc, que face à Dieu, elles n'ont pas d'autonomie. Mais c'est parce que ces personnes-là n'ont pas de... la volonté d'être d'égale dignité avec Dieu. C'est entre humains que nous avons cette volonté, que l'idée d'être soumis à quelqu'un d'autre nous heurte. Les lions ont peut-être ce même sentiment, ou peut-être pas. La deuxième chose que je pense, c'est quand on dit les lions, ils vont être entièrement soumis aux humains, c'est comme dans un zoo, etc. etc. Je pense qu'il y a l'idée de perte de capacité d'innovation, que le lion, tout ce qu'il fera, ce sera des choses télécommandées par les humains, donc il n'y aura plus toute la l'originalité de ce que c'est que d'être un lion, toute la possibilité de... Si moi je suis téléguidé par quelqu'un d'autre, c'est pas la peine que j'essaye de trouver des idées nouvelles, de faire des choses nouvelles, etc. Parce que je serai téléguidé, de toute façon, c'est déjà tout cuit ce que je ferai. Je pense qu'il y a aussi... Dans l'idée que non, il ne faut pas manipuler génétiquement les gens, etc., il y a l'idée de perte aussi de richesse de la vie. Mais je pense que c'est un manque d'imagination et que la vie peut continuer à être extrêmement riche, y compris sans la prédation et sans la souffrance. Il n'y a pas besoin de la prédation et de la souffrance et des maladies, etc. C'est un argument qui se trouve souvent dans les maladies. Oui, on a besoin des maladies pour nous apprendre la valeur de la vie. Je pense que, je ne sais pas, moi, si je n'avais pas besoin de lutter contre la souffrance des animaux, j'aurais bien d'autres choses à faire dans la vie, et je pense que des choses intéressantes et tout ça, si on m'enlevait tout ça, il n'y a pas besoin de la souffrance, il n'y a pas besoin de... Et les lions pourraient très bien être, téléguidés au niveau génétique pour ne pas faire du mal aux gazelles, et continuer à être des lions, et continuer à nous apporter beaucoup de choses innovantes, etc. Voilà, bon, donc je sais pas si ça répond beaucoup à ta question, un minimum. Enfin, grosso modo, je suis d'accord avec toi, mais. Voilà. Oui, peut-être. Alors, c'est pas forcément une discussion entre questions et réponses de ma part.
Non, mais voilà, c'est bon. Juste que je n'ai aucun espoir pour pas résoudre la suggestion que je propose. Le but, nos différences depuis des années, quoi que j'apprécie beaucoup ta part de toi, hein. L'idée que tu donnes de Dieu, maintenant, tous les ans, elle est ringarde, à mon avis, elle est contestée maintenant par des tas de chercheurs qui ne voient pas du tout les choses comme ça. Ils voient au contraire qu'ils sont une partie de Dieu, qu'ils ne sont pas soumis à Dieu. Ils sont Dieu est en nous et nous, on est en Dieu. Voilà. Ensuite, si on considère les milliards de formes ont été créés peut-être dans le suffisamment d'autres théories, en tout cas on est en face de milliards de formes, est-ce qu'il ne vous vient pas l'idée dans vos recherches, aux uns et aux autres, qu'il y a une dualité, d'accord, mais ce n'est pas forcément uniquement celle que tu as désignée, c'est la matière et l'esprit. Voilà. Et pour moi, ce que j'essaie de résoudre dans mon même, c'est qu'est-ce que c'est que ces différences et quelle est l'influence de l'un sur l'autre, la matière et l'esprit. Et moi, je pense que l'esprit, que Dieu, c'est l'esprit, c'est pas un être là-haut dans le ciel qui peut obéir au Dieu éternel, c'est une énergie qui peut s'agrandir à l'infini. On commence seulement à reconnaître vraiment dans toutes les spiritualités dans le monde d'Occident, et heureusement que c'est en train de venir parce que ça donne un peu d'espoir. Voilà. Donc, j'invite à voir aussi ces deux, ces parallèles à retrouver autrement, parce que c'est invivable autrement. Pour moi, la Terre, même avec toute l'écologie, les animalistes, tout ce que vous voulez, tel que c'est un enfer. Voilà. Mais il y a de l'espoir, de, avec l'esprit, de faire autre chose. Alléger la matière en tout.
Moi, j'avais bien aimé ce que tu disais sur le. Ben, en fait, je trouve que toute ta présentation, c'est pas mal basé sur le. Sur la relativité des choses, tu parlais de la relativité du mouvement qui a permis de passer des théories de Copernic à celle de Galilée, puis celle d'Einstein, on n'en a pas parlé, mais le principe de relativité a été mis en équation par Einstein en 1905. Après, tu as parlé aussi du sens de la vie, et là encore, il y a la relativité qui intervient, puisque tu l'as dit, notre vie n'est pas forcément la plus importante qui soit, puisqu'il y a toutes les autres vies qui comptent et que. Quand la note se termine, toutes celles des autres continuent, donc ça je trouvais ça intéressant aussi. Après, j'ai bien aimé aussi, tu parlais dans ton tableau final avec des différents points de vue, tu parlais notamment de l'immuabilité des planètes, et je ne sais plus trop ce que tu disais, mais par exemple la perfection, immutabilité, éternité, par exemple pour les planètes, on sait de nos jours que ce n'est pas vrai. Alors là, j'ai noté relativité de l'observation. C'est-à-dire que d'un point de vue humain, effectivement, ça ne bouge pas. Mais d'un point de vue, mettons, quelqu'un qui pourrait vivre sans vie, ni vie, qui constaterait une évolution de la planète, des montagnes, ou je ne sais pas quoi. Donc là encore, il y a encore ce principe de relativité qui est important. Et là, je vais rebondir sur ce que disait Tipi tout à l'heure, sur la relativité de la prédation. Je pense que la prédation des espèces, alors animales, je ne parlerai pas de la prédation humaine vis-à-vis des autres humains, vis-à-vis des espèces animales, je pense qu'elle est vitale, et pas forcément à l'échelle de l'individu, mais à l'échelle de l'espèce, puisque c'est la prédation, par exemple, des loups, hein, on parle beaucoup des lions ou des loups, hein, mais c'est la prédation de ces animaux-là qui permet le développement de leur proie et de leur capacité à survivre. Puisque si ils n'avaient pas de prédateurs, les proies n'auraient pas développé des systèmes de survie, des techniques, une force, une vision, enfin, ils n'auraient pas développé tous ces outils qui leur permettent de rester en vie dans une majorité des cas. C'est juste ça. Ça m'a un peu choqué, ça m'a troublé qu'on veuille empêcher les prédateurs de tuer leur proie.
Pour répondre juste à ça, des animaux considérés comme les plus intelligents de la planète, comme les éléphants et les baleines, n'ont pas de prédateurs, ça ne les empêche pas d'avoir d'autres pressions sélectives qui leur font se développer le cerveau.
Ils
ne
sont pas
de
prédateurs,
les éléphants et les baleines.
Ouais, ils sont des prédateurs.
Non, pas de prédateurs.
Non, pas de prédateurs.
C'était...